Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1963 à partir des reportages que Hannah Arendt avait consacrés au procès d'Adolf Eichmann pour The New Yorker. Eichmann à Jérusalem est à la fois une chronique judiciaire, une enquête historique et un essai de philosophie politique. Arendt suit le procès du responsable nazi chargé d'une partie des 100 sièges des déportations des Juifs d'Europe, capturés en Argentine puis jugés en Israël en 1961. Elle ne se limite pas à reconstruire les faits imputés à l'accusé. Son objectif est d'examiner les conditions institutionnelles, langagères et morales qui ont rendu possible une participation efficace au génocide. Le livre est surtout connu pour la formule de banalité du mal, souvent simplifiée à tort. Arendt ne minimise ni les crimes ni la culpabilité d'Eichmann, elle décrit plutôt l'absence de pensée et le conformisme administratif qui peuvent accompagner des actes d'une gravité extrême. L'ouvrage interroge aussi le cadre du procès, la nature des crimes contre l'humanité et les responsabilités distribuées dans un système totalitaire. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la banalité du mal désigne une faillite du jugement, non une innocence. La thèse de la banalité du mal constitue le centre intellectuel du livre, mais elle ne signifie pas que le mal commis serait ordinaire, excusable ou peu grave. Arendt estime au contraire que les crimes organisés par le régime nazi excèdent les catégories habituelles de la criminalité. Ce qui lui paraît banal est le profil que Eichmann donne à voir ni démon exceptionnel ni grand penseur du mal, mais un fonctionnaire ambitieux. Prisonnier de formules, toutes faites et incapable d'examiner ce que ses actes impliquent pour autrui. Son langage stéréotypé est décisif dans ce diagnostic. Il répète des clichés administratifs et idéologiques au lieu de formuler un jugement personnel sur la déportation et la mise à mort. Pour Arendt, cette défaillance ne relève pas d'une simple bêtise. Elle révèle l'abandon de la faculté de penser, entendue comme la capacité de s'arrêter, de considérer la réalité depuis le point de vue d'autrui et de soumettre les ordres reçus à un examen moral. Eichmann demeure donc pleinement responsable. Il aurait pu refuser de coopérer, mais il a choisi d'adapter sa conduite aux exigences du régime et de faire carrière dans son appareil. La notion avertit ainsi que l'obéissance routinière peut devenir criminelle lorsqu'elle dispense les individus de juger. Deuxièmement, la bureaucratie nazie transforme le crime de masse ensuite de tâches administratives. Arendt analyse la destruction des Juifs d'Europe comme une entreprise à la fois idéologique et administrative. Eichmann n'est pas présenté comme le seul auteur de la politique d'extermination, mais comme un rouage important chargé notamment de l'émigration forcée, puis des déportations. Cette position permet de comprendre comment une chaîne de décisions, de règlements, de transports, de listes et de procédures peut éloigner chaque participant de la réalité matérielle du meurtre. La division du travail ne supprime pourtant pas la responsabilité, elle la rend plus difficile à reconnaître pour ceux qui se réfugient derrière la limitation apparente de leur fonction. Le livre montre aussi que le régime a donné à ses crimes une apparence de régularité. Directives, vocabulaire technique et hiérarchie transformaient l'exécution d'un projet génocidaire en devoir professionnel. Eichmann pouvait ainsi se représenter comme un citoyen respectueux de la loi, alors même que les lois du Reich avaient détruit tout contenu moral du droit. Arendt met ici en cause un légalisme sans jugement le fait qu'un ordre émane d'une autorité ne le rend pas juste. Son analyse demeure utile pour penser les institutions ou la spécialisation. La distance et la conformité aux procédures risquent de dissoudre la perception des conséquences humaines. Troisièmement, les euphémismes et les clichés empêchent de regarder les victimes et les actes, le langage occupe une place essentielle dans le portrait intellectuel de Eichmann. Arendt relève son recours constant aux expressions convenues du Reich et aux formulations administratives qui recouvrent la violence réelle. Les mots ne sont pas seulement un décor de propagande. Ils participent à une mise à distance morale, ils remplacent les personnes par des catégories et le meurtre par des opérations présentées comme techniques ou nécessaires. Cette langue rend plus facile la coopération de personnes qui n'ont pas besoin de se reconnaître comme auteurs d'un crime à chaque étape de leur travail. Chez Eichmann, les clichés signalent également une incapacité à parler depuis une expérience réellement pensée. Il semble reproduire les expressions disponibles plutôt que mesurer leur rapport aux faits. Arendt associe ce défaut de langage à une absence d'imagination morale, ne pas trouver les mots justes pour nommer une situation. C'est aussi risquer de ne plus saisir la souffrance qu'elle contient. L'analyse ne prétend pas que les mots causent à eux seuls le génocide. Elle montre plus précisément qu'une langue déshumanisante facilite l'acceptation de politiques déshumanisantes. Le lecteur est conduit à examiner les termes neutres ou abstraits qui, dans toute organisation, peuvent masquer la contrainte, l'exclusion ou le préjudice. Nommé clairement, les actes deviennent une condition préalable du jugement et de la responsabilité. Quatrièmement, le procès d'Eichmann soulève la question du jugement des crimes contre l'humanité. le livre ne propose pas seulement un portrait de l'accusé. Il examine aussi la scène judiciaire de Jérusalem. Arendt reconnaît la nécessité de juger Eichmann et le tient pour coupable de crimes majeurs. Elle discute toutefois la manière dont le procès présente l'affaire, notamment lorsque le récit national de la persécution des Juifs tend à prendre le pas sur la qualification universelle du crime. Selon elle, le crime central doit être compris comme un crime contre l'humanité, parce que la politique nazie a attaqué la pluralité humaine elle-même en prétendant décider quel groupe avait le droit d'exister. Cette perspective n'efface nullement la réalité spécifique du génocide des Juifs. Elle cherche à formuler une catégorie juridique et politique capable de mesurer une offense qui concerne l'ordre humain commun. Arendt s'interroge également sur les conditions de compétence du tribunal et sur la place accordée aux témoins et à l'histoire dans une procédure destinée à établir la culpabilité individuelle. Ces critiques ont nourri de vives controverses, car elles touchent à la mémoire de la Shoah autant qu'au droit. Leur intérêt durable tient à la distinction qu'elles imposent entre les besoins légitimes de mémoire collective, la fonction pédagogique d'un procès et l'exigence stricte de juger les actes et la responsabilité d'une personne déterminée. En dernier lieu, la comparaison des pays occupés fait de la résistance un fait politique et moral, en retraçant les déportations dans plusieurs régions d'Europe. Arendt ne décrit pas une population uniformément passive ni des administrations toutes identiques. Elle observe que l'ampleur et les modalités de la persécution dépendaient aussi de l'attitude des autorités locales, des institutions nationales et des sociétés concernées. Les exemples du Danemark et de la Bulgarie sont particulièrement importants dans son raisonnement. Ils indiquent que la pression nazie, si terrible fut-elle, ne rendait pas toute résistance impossible. Là où des responsables et des citoyens refusaient de livrer les Juifs ou rendaient la coopération plus difficile, la machine de déportation rencontrait des obstacles réels. Cette idée ne doit pas devenir une accusation simpliste contre les victimes, ni une négation de l'écrasante domination exercée par le Reich. Arendt s'intéresse aux possibilités concrètes de refus dans un contexte de terreur et à ce qu'elles révèlent sur la responsabilité politique. Son analyse montre que les systèmes criminels ne fonctionnent jamais par la seule volonté de leur sommet. Ils exigent des relais, des accommodements et parfois des complicités. Inversement, même des gestes institutionnels limités peuvent rompre l'impression d'inévitabilité créée par le pouvoir totalitaire. Le livre fait donc de la résistance une question de jugement public, de solidarité et de refus de traiter l'injustice comme une simple affaire administrative. En conclusion, Eichmann à Jérusalem s'adresse aux lecteurs d'histoire de la Shoah, de philosophie politique, de droit international et de théorie morale. Mais il peut également intéresser toute personne qui cherche à comprendre comment des institutions ordinaires peuvent participer à des violences extrêmes. Sa lecture demande de la concentration. Arendt mêle le récit du procès, l'étude des mécanismes nazis, l'analyse du vocabulaire bureaucratique et des réflexions parfois abruptes sur le jugement. En retour, elle fournit des instruments intellectuels précis pour distinguer obéissance, légalité, responsabilité et pensée critique. Le principal bénéfice du livre est de refuser deux facilités opposées, imaginer que seuls des monstres accomplissent des crimes de masse, ou croire que les exécutants en sont pas responsables parce qu'ils obéissent. Arendt oblige à tenir ensemble l'immensité des crimes et la médiocrité parfois saisissante de ceux qui les administrent. L'ouvrage se distingue des récits historiques classiques par sa forme de reportage philosophique. Il ne reconstitue pas seulement le procès Eichmann. Il examine ce que cet événement révèle des conditions modernes de la domination et du crime organisé, ses jugements sur le procès, sur certaines conduites institutionnelles et sur les conseils juifs ont suscité des contestations durables, qu'il importe de lire dans leur contexte plutôt que de les réduire à des slogans. Cette dimension polémique fait aussi sa valeur. Le livre reste un exercice exigeant de réflexion sur la responsabilité individuelle au sein des systèmes collectifs. Si vous souhaitez soutenir Hannah Arendt, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.